Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Nathalie Barge.
Bonsoir. Au sommaire de cette édition du 27 septembre 2017, l'armée ivoirienne dit avoir découvert une importante cache d'armes et des treillis militaires à Abidjan. Des milliers de Guinéens ont assisté à Conakry à l'inhumation de deux jeunes tués lors d'une manifestation le 20 septembre. La marine libyenne aborde un navire humanitaire et menace de saisir ceux qui pénètrent dans la zone maritime interdite. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé la destruction des dernières armes chimiques datant de la guerre froide. Et l'économie et les sports, ce sera juste après le journal. Incompréhension au Tchad après le nouveau décret migratoire du président américain Donald Trump. Les ressortissants tchadiens deviennent indésirables aux États-Unis. Anastasie Tudiech.
Visé pour manque de coopération, N'Djamena se retrouve logé à la même enseigne que des adversaires déclarés des États-Unis comme la Corée du Nord, l'Iran et le Venezuela. L'Union africaine a exprimé sa perplexité face à cette mesure qu'elle qualifie d'injuste contre le Tchad, soulignant le rôle important de N'Djamena dans la lutte contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad, dans le nord du Mali et dans le Sahel. La France a également fait part aujourd'hui de sa surprise face au décret du président américain et espère qu'une solution sera rapidement trouvée. Selon le New York Times, des officiels du Pentagone et du Département d'État sont opposés à ce décret au nom des intérêts américains. Cette mesure n'a aucun sens, d'après Herman J. Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, qui qualifie le Tchad d'allié dans la lutte contre Boko Haram. L'ambassadrice américaine à N'Djamena, Gita Passi, a déclaré hier que cette décision n'entame en rien les relations d'excellence entre les deux pays.
Dans le nord du Burkina Faso, deux gendarmes ont été tués dans l'attaque d'un convoi de ravitaillement en carburant de la mine d'or d'Inata. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le véhicule de tête du convoi, escorté par des gendarmes, a sauté sur une mine. Des échanges de tirs ont suivi, mais les assaillants ont réussi à s'échapper. Deux gendarmes ont été portés disparus, puis ont été retrouvés morts. Deux autres sont blessés. Cette attaque est la troisième depuis mi-août. Samedi, une patrouille du groupement des forces antiterroristes a sauté sur une mine faisant sept blessés. Le 18 août, trois militaires ont également été tués dans cette même région du nord lorsque leur véhicule a heurté un engin explosif. Le groupe djihadiste Ansarul, actif dans le nord du Burkina, a revendiqué plusieurs attaques dont celle de décembre 2016 qui avait fait 12 morts, tous des militaires.
L'armée ivoirienne a découvert une importante cache d'armes à Abidjan, selon une source au sein de l'état-major, de lance-roquettes RPG, des kalachnikovs, des fusils mitrailleurs, des munitions et des explosifs en quantité ont été saisis. Mardi, dans un gymnase désaffecté d'Atié-Koubé, les soldats ont également découvert du matériel de communication, des fausses plaques minéralogiques, de véhicules administratifs et militaires et au moins 300 treillis. Des badges estampillés Mouvement guerrier pour la dignité et la justice en Côte d'Ivoire ont également été trouvés, selon cette source, ajoutant que 4 personnes ont été interpellées et qu'une enquête est en cours. En Guinée, des milliers de personnes ont assisté à Conakry à l'inhumation de deux opposants tués par les forces de l'ordre lors d'une manifestation pour réclamer l'organisation des élections locales. Les deux jeunes avaient été blessés par balle le 20 septembre avant de succomber à leurs blessures. L'opposition avait condamné un usage excessif et disproportionné de la force publique. La commission électorale a finalement annoncé lundi que ces élections seraient organisées le 4 février, une date approuvée par l'opposition après plusieurs reports du scrutin depuis 12 ans. Fronde anti-Zuma en Afrique du Sud, des milliers de personnes ont défilé dans les rues de plusieurs grandes villes à l'appel de la Confédération syndicale COSATU. Claire Morin-Gibourg.
À Johannesburg, 5000 personnes se sont assemblées pour exiger la démission du président Jacob Zuma et dénoncer la corruption de son gouvernement. Selon la COSATU, 13 manifestations ont eu lieu dans 9 provinces du pays, avec comme cri de ralliement, Zuma doit partir. Au pouvoir, depuis 2009, Jacob Zuma est affaibli par une succession de scandales politico-financiers qui plombent depuis des mois la fin de sa présidence, notamment des détournements massifs de fonds au profit de la famille Gupta. Allié traditionnel de l'ANC, la COSATU soutient le vice-président Cyril Ramaphosa pour succéder à la tête du parti à Jacob Zuma, qui a pris fait et cause pour son ex-épouse, Kosazana Dlamini Zuma, l'autre favorite de la course.
Le Parlement ougandais a effectué un premier pas en vue de supprimer la limite d'âge pour être élu président qui permettrait au chef de l'État Yoweri Museveni de briguer un sixième mandat en 2021. L'Assemblée a adopté ce mercredi une motion autorisant un député du parti au pouvoir à présenter un projet de loi visant à amender la Constitution. La motion devait déjà faire l'objet d'un vote hier soir, mais la séance s'est muée en empoignade lorsqu'un élu d'opposition a accusé un ministre de l'avoir menacé. La séance d'aujourd'hui a également donné lieu à des scènes de violence lorsque la présidente de l'Assemblée a annoncé la suspension de 25 députés pour les échauffourées de mardi. La marine libyenne a menacé de saisir les bateaux d'ONG naviguant près de ses eaux sans autorisation préalable après un incident avec une ONG allemande. Nous allons saisir les bateaux de ces organisations qui ne respectent pas la souveraineté libyenne, a mis en garde le porte-parole de la marine Ayoub Kassem. Le général a rappelé l'annonce en août de la création d'une zone de recherche et de sauvetage que la marine libyenne interdit, sauf autorisation aux navires étrangers. Ce matin, les gardes-côtes libyens ont abordé le navire de l'ONG Mission Lifeline qui venait de secourir 52 personnes. Bata, capitale économique de la Guinée équatoriale, subit des coupures d'électricité depuis un mois à cause de la réparation de la centrale hydroélectrique Djibo. Il n'y aura pas de courant pendant 33 jours, avait déclaré début septembre le ministre de l'énergie Eugenio Edundong. Certains hôtels de la ville portuaire utilisent des groupes électrogènes et des lampadaires fonctionnent par intermittence. De nombreux habitants sont désormais injoignables par téléphone, faute de pouvoir recharger les batteries. Par ailleurs, le vol de début de soirée qui relie Malabo, situé sur l'île de Bioko, à Bata, ne peut plus atterrir, faute de lumière à l'aéroport, selon la Compagnie nationale équato-guinéenne CEIBA.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Commission européenne a proposé de modifier les règles de l'espace Schengen en prévoyant la possibilité de rétablir des contrôles frontaliers sur une durée allant jusqu'à 3 ans dans des cas exceptionnels pour s'adapter notamment à de nouvelles menaces comme le terrorisme. Le point avec Solange Niamoulisa.
L'annonce de l'exécutif européen intervient avant l'arrivée à échéance des dérogations provisoires dont disposent 6 pays européens pour effectuer des contrôles à l'intérieur de la zone de libre circulation. L'Autriche, l'Allemagne, le Danemark, la France, la Suède et la Norvège ont rétabli des contrôles aux frontières. La France invoque la menace terroriste pour effectuer des contrôles jusqu'au 31 octobre. Les autres pays font face à l'afflux massif de migrants à la frontière grecque et sur la route des Balkans. Bruxelles estime que les arrivées de migrants en Grèce ont fortement baissé et ses autorisations de contrôle ne seront plus prolongées après le 11 novembre 2017. Le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, a admis que les États membres devraient être autorisés à agir en cas de situation exceptionnelle lorsqu'ils font face à des menaces graves qui ne sont pas précisées.
Le président russe Vladimir Poutine a annoncé la destruction des dernières armes chimiques russes tout en accusant les États-Unis de traîner les pieds pour se débarrasser de ses propres stocks. Les dernières réserves d'armes chimiques de l'arsenal russe vont être détruites aujourd'hui, a assuré M. Poutine, saluant un événement historique. Le président russe s'exprimait par vidéoconférence avec les responsables de la destruction du dernier stock russe à Kizner. L'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques, dont des responsables étaient présents, a félicité la Russie pour ce grand pas en avant. Une frappe aérienne américaine sur Kaboul conduite en riposte à une attaque des talibans sur l'aéroport international lors de la visite du chef du Pentagone Jim Mattis a fait plusieurs victimes. Malheureusement, un missile a mal fonctionné, causant plusieurs victimes civiles, ont rapporté les responsables de l'opération Resolute Support. Les forces américaines avaient apporté un soutien aux forces de réaction rapide afghanes en conduisant un raid aérien, explique l'OTAN, qui exprime ses profonds regrets et annonce qu'une enquête est en cours sur la conduite de l'opération et la munition défectueuse. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Blanche Sanou.
La compagnie aérienne panafricaine Askaï a annoncé un réaménagement de son programme de vol à compter du 1er novembre 2017. Selon l'agence Ecofin, ce nouveau programme va réduire le temps de transit à Lomé de 3 heures à 1 heure et à 45 minutes maximum pour certains vols. Les nouvelles lignes de Banjul, Freetown et Monrovia faciliteront également les vols directs pour les passagers. La compagnie continue à promouvoir l'intégration régionale, le tourisme et le développement de la connectivité entre les capitales politiques et économiques de l'Afrique. Askaï dessert 19 villes dans 17 pays en Afrique de l'Ouest et du Centre. Au Sénégal, l'Agence française de développement a mis à la disposition du Sénégal une enveloppe de 21 milliards de francs CFA au terme d'un accord de financement signé par le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Amadou Ba, et Rémi Riou, directeur de l'AFD. Selon APA News, cet appui va permettre à l'État du Sénégal de financer la promotion des exploitations familiales agricoles dans la région de Matam. Pour sa part, le directeur de l'AFD, Rémi Riou, a indiqué que le projet APFAM 2 allait permettre de réduire de moitié le déficit de la balance commerciale sur les cultures céréalières et d'atteindre rapidement l'autosuffisance en riz à l'horizon 2018. La Société Générale Cameroun a attribué un bénéfice de 9,7 milliards de francs CFA à ses actionnaires au plus tard le 30 septembre prochain. Ce montant correspond à un dividende brut par action de près de 8 000 francs CFA avant retenue de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. En 2016, la SGC a indiqué que sa position de trésorerie nette se situait à 44 milliards de francs CFA contre 59 milliards en 2015.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Alors en Europe, suite de la deuxième journée de la Ligue des Champions.
Et après 45 minutes de jeu, des scores déjà intéressants, Manchester United qui mène 3-0 à Moscou devant le CSKA, un doublé de Lukaku et Martial qui a inscrit un but sur pénalty. Et puis c'est parti très vite également au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain qui mène 2-0 face au Bayern. Dani Alves a inscrit un but après 2 minutes de jeu seulement. Cavani a doublé la mise. Ouverture du score également sur la pelouse d'Anderlecht, battu pour le moment 1-0 par le Celtic. Et puis Antoine Griezmann qui a permis à l'Atlético Madrid de mener 1-0 face à Chelsea. Le FC Bâle qui mène 2-0 contre Benfica. En revanche, 0-0 entre la Juventus et l'Olympiakos, ainsi que le Sporting Portugal contre Barcelone. Un peu plus tôt, l'AS Rome s'était imposé en Azerbaïdjan à Karabakh 2-1.
Et le Real qui s'est imposé à l'extérieur?
Oui, hier soir, le Real a remporté une victoire importante sur la pelouse du Borussia Dortmund. 3-1. Cristiano Ronaldo s'est illustré avec un doublé pour son 400e match avec le Real. Aubameyang avait réduit la marque. Dans l'autre match du groupe hier soir, Tottenham a écrasé la Poel Nicosie 3-0 grâce à un triplé de son attaquant vedette Harry Kane. Et puis l'AS Monaco battu 3-0 à domicile par Porto. A noter Nathalie, le doublé de l'attaquant camerounais Vincent Aboubakar. Besiktas qui l'emporte contre Leipzig. 2-0, ce fut long à se dessiner pour Manchester City qui a quand même battu le Shakhtar Donetsk 2-0. Naples l'emporte 3-1 contre le Feyenoord Rotterdam. Et puis match nul, un but partout de Liverpool contre le Spartak Moscou. Enfin, nette domination du FC Séville qui a battu Maribor 3-0.
Et la Ligue Europa demain?
Eh oui, le Milan AC et Arsenal ont l'occasion de conforter leur place en tête de leur groupe face aux modestes Croates de Ricicka et aux Bélarusses du Baté Borisov. Les autres rencontres, la Real Sociedad sera en Russie pour affronter le Zénith Saint-Pétersbourg, l'Atalanta Bergame va à Lyon et les Autrichiens de Salzbourg qui reçoivent l'Olympique de Marseille.
Varane prolonge avec le Real.
Eh oui, le défenseur français de 24 ans a prolongé son contrat avec le Real Madrid pour 2 saisons supplémentaires jusqu'en 2022. Il imite ainsi Marcelo ou encore Karim Benzema.
Merci beaucoup Nicolas pour cette page sportive.
Bye-bye. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers d'actualité. Au Cameroun, une organisation de la société civile dévoile les pratiques de monnayage des recrutements dans les établissements scolaires publics de Yaoundé. Une liste de 15 structures scolaires concernées par ce phénomène a ainsi été dressée par l'Association citoyenne pour la défense des intérêts collectifs. Le gouvernement prend l'affaire au sérieux et menace de sanctionner les présumés corrompus qui, eux, crient à la conspiration. Le point avec notre correspondant Emmanuel Juntap.
Le lycée bilingue de Yaoundé est cité parmi les établissements les plus corrompus de la capitale. 75 000 francs CFA au moins, 150 000 francs CFA au plus, c'est le prix d'une place dans cet établissement pour le recrutement d'un élève en classe de 6e. Le proviseur Stéphane Chanchi parle de conspiration et rétorque.
Et je suis étonné quand on parle de tous ces agents qu'on dit on achète les places. Ça, c'est faux. Et quand tu viens dans les salles de classe, il y a les élèves qu'on a recrutés à la base de 7 concours. C'est comme si la personne qui a fait ça ne connaît pas comment on procédait à faire les recrutements dans les établissements publics.
L'Association citoyenne de défense des intérêts collectifs dit avoir mené les enquêtes dans les 35 lycées de Yaoundé. Résultat, le monnayage des recrutements a été érigé en règle d'or dans la plupart. Alice Prison, secrétaire permanente adjointe de l'ACDIC.
Si vous allez directement auprès du proviseur, on vous dit nous ne faisons pas ça ici. Mais dès que vous sortez, le secrétaire du proviseur, le censeur vous tient nos discours. Et il y a eu des cas, des élèves eux-mêmes, le proviseur lui dit non mais tu donnes telle somme. Et c'est ainsi que les informations ont été récoltées. Les informations que le parent donnait étaient tout le temps confirmées auprès d'un responsable. Données ci, pour telle classe.
Une fois le classement rendu public, le ministre des enseignements secondaires a brandi par voie de communiqué les menaces de sanctions disciplinaires sévères à l'encontre de toute personne impliquée de près ou de loin dans ces pratiques. Mais pour les élèves, les menaces de sanctions ne suffisent pas car le mal est profond et réel dans les établissements publics de Yaoundé.
Mon grand frère qui devait aller au lycée, on lui a demandé de payer une somme de 40 000 francs pour avoir une place.
Nous étions 4 et pour entrer dans ce lycée-là, on nous a demandé une somme de 60 000 francs pour chacun.
De graves accusations qui interpellent la Commission nationale anticorruption, la CONAC. Armand Véronique Nga, chargé d'études à la CONAC, soutient que cet organe continue à lutter efficacement contre le phénomène en milieu scolaire.
Une fois que la CONAC est saisie des cas de dénonciation de pratiques de corruption, une fois que la CONAC a mené ses investigations et a réuni les preuves contre un tel ou un tel, elle en saisit en retour l'administration compétente et les juridictions compétentes pour que celles-ci mettent en œuvre les sanctions qui sont prévues.
Hasard du calendrier ou pas, la Commission nationale anticorruption vient de boucler à Douala, capitale économique, une caravane anticorruption dans le secteur éducatif. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Les peuples de la forêt ont décidé de lutter contre l'exclusion et la marginalisation dont ils sont victimes au quotidien à travers un festival regroupant tous les peuples de la forêt du Cameroun, du Gabon, du Congo et de la Centrafrique. Ils cherchent à revaloriser leur culture et à se faire connaître au niveau mondial. Voici un reportage de Joël Honoré Kouam, interprété par Lionel Gaïma.
Au Cameroun, le peuple de la forêt, qui sont en majorité des pygmées, sont marginalisés, exclus au point où leur habitat naturel, la forêt, se trouve menacé de disparition. Les conséquences sur la vie culturelle de ces peuples sont considérables. Nous prenons la route de la forêt du Sud Cameroun. Notre première halte est à Mengengue, dans un campement où vivent recluses quelques familles de pygmées. Les premiers occupants de la forêt n'ont pas la vie facile. Ils sont pourchassés par la tribu Bassa qui veut occuper et exploiter tout leur espace vital.
Regardez où nous vivons. Les Bassa nous ont tout pris au point de nous chasser de nos terres. On n'a plus rien. Même nos enfants ne vont pas à l'école. L'école est très loin d'ici, à 8 km. Comment des enfants de 3 à 4 ans peuvent faire 10 km de marche pour aller à l'école? Et avec l'hôpital, c'est pareil, c'est très loin. On nous demande toujours de l'argent alors que nous n'avons rien. C'est pour cela qu'on se retourne vers nos plantes pour nous soigner. Donc nous ne sommes plus rien, nous n'avons rien.
L'hôpital ne fonctionne d'ailleurs pas. Nous sommes accueillis dans cette esplanade par des chèvres. La marginalisation de ses habitants a un impact dévastateur sur leur culture diversifiée qui tend à disparaître. C'est pour pallier cette situation que le professeur Nkamba a décidé de créer le Festival de Peuples de la Forêt, dont l'objectif est de remettre en valeur cette couche de la population qu'on a trop longtemps négligée.
Nous avons engagé un travail de fond, de valorisation de la culture des peuples de la forêt, du bassin du Congo, une culture souvent méconnue, spoliée, délaissée, oubliée, marginalisée, au profit des cultures tant qu'alitérales de culture électronique, favorisée par l'avènement des nouvelles technologies et de la télévision. L'édition 2017 du Festival Nkumbukwa par centaines, culture et éducation, gage du développement durable.
Seuls les jeunes et l'éducation, à travers de tels festivals, pourront redonner une lueur d'espoir véritable à ces peuples qui ne demandent qu'à s'exprimer et vivre.
Et Kabadou avec vous dans Washington Forum ce jeudi, le point sur l'actualité migratoire de l'administration Trump. En janvier, Donald Trump décidait d'interdire le territoire américain aux ressortissants de 6 États musulmans afin de prévenir d'éventuels risques terroristes. Le Tchad, la Corée du Nord et le Venezuela viennent d'être ajoutés à cette liste. Le Soudan vient d'en sortir. Comment interpréter cette mesure? Comment sortir de cette liste noire? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h en temps universel.
Les Saoudiennes seront bientôt autorisées à conduire, selon un décret publié mardi soir. Ce décret du roi Salman ordonne la formation d'un organe ministériel consultatif dont l'avis sera rendu dans les 30 jours et précise que la mesure entrera en vigueur d'ici juin 2018, indique l'agence de presse saoudienne officielle. C'est une avancée majeure pour les droits de la femme dans ce pays musulman ultra-conservateur du Golfe où les femmes n'avaient jusqu'ici pas le droit de conduire. Kadiatou Traoré a joint à Jeddah un enseignant malien résident en Arabie Saoudite, Daouda Doumbia.
C'est être un combat de femmes pour faire aboutir le droit de conduite. Dans ce sens, le roi a promulgué un décret publié dans les journaux saoudiens, des journaux crédibles comme Saudi Gazette, autorisant et garantissant le droit de conduite aux femmes.
Dans ce royaume ultra-conservateur, les femmes n'avaient jusqu'ici pas le droit de faire beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut dire que c'est une avancée notoire dans la réalisation ou la mise en œuvre des droits des femmes dans ce pays?
Oui, tout à fait. C'est une grande avancée dans le cadre de l'émancipation de la femme, parce que depuis de nombreuses années déjà, on tend à aller vers cette ouverture, mais la lutte des femmes elles-mêmes et aussi beaucoup d'autres soutiens qu'elles ont de la part d'une certaine catégorie d'hommes, une certaine catégorie de la société, évoluée, très évoluée d'ailleurs, qui tend à sortir un peu du conservatisme, s'il faut le dire, mais pour aller vers une émancipation intégrale de la femme.
Quel constat peut-on faire de la situation de la femme aujourd'hui en Arabie Saoudite?
En effet, il y a eu d'autres décisions importantes et très concrètes, telles que le droit de vote et le droit d'être éligible. Aujourd'hui, les femmes sont éligibles dans les élections locales. Elles ont le droit de voter et elles ont le droit aussi de se présenter comme candidates. C'est ainsi qu'on voit au sein des municipalités des femmes élues dans les parlements municipaux.
C'était Daouda Doumbia, enseignant malien résident en Arabie Saoudite.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Salon professionnel du tourisme et des voyages se tient actuellement à Paris, en France. Le Sénégal, dont 30% des visiteurs viennent d'Europe, y prend part avec l'espoir de tirer son épingle du jeu. Et Kabadou a joint sur place le ministre sénégalais du tourisme, Mame Mbaye Niang.
Ce salon
rapport-là est très important pour nous parce que pratiquement 30 à 40% de nos touristes viennent de la France, de l'Europe francophone.
Le gouvernement, en tout cas, a mis le tourisme au rang des secteurs prioritaires du plan Sénégal émergent depuis 2014. Pourquoi ce choix?
Il y a des aspects économiques. Il ne faut pas oublier que le tourisme, c'était 4 à 5% de notre PIB. Et étant donné que le président de la République a pour objectif 7% de croissance en 2017 et qu'actuellement on est vers 6,7, nous pensons que si nous boostons le tourisme, nous pourrons atteindre facilement ces 7% en 2017.
Pour booster le tourisme, justement, il y a plusieurs mesures, oui. Notamment il y a le retrait des visas. Avant, il fallait un visa pour se rendre au Sénégal. Et il y a aussi le côté sécuritaire avec de nombreuses zones, de nombreuses régions qui ont été sécurisées, notamment la Casamance qui n'est plus dans la liste noire.
Oui, c'est grâce aux efforts du président de la République qu'on en est arrivé à ce stade-là. Et c'est pas seulement sur l'aspect sécuritaire qui est très important et déterminant aussi. À part le retrait des visas aussi, il y a d'autres mesures, c'est-à-dire les investissements sur le tourisme en Casamance ont été défiscalisés sur 10 ans. Donc d'ici 10 ans, si un investisseur a envie de financer dans ce secteur en Casamance, il y a des facilités. C'est un environnement agréable à vivre, ça a un décor paradisiaque, ça a de la plage, il y a de la verdure. Donc il y a des atouts qu'on peut mettre en valeur en Casamance, c'est ce qui explique cette discrimination positive du président de la République par rapport à la Casamance. Et notamment, les problèmes de sécurité ne sont plus d'ordre du jour.
Par rapport au retrait des visas, est-ce que depuis qu'il y a ce retrait de visas, il y a plus de visites au Sénégal?
Avec le retrait de ces visas, nous constatons naturellement une amélioration du nombre de touristes au Sénégal.
Quels sont les chiffres?
Si je vous dis que nous passons de 700 000 à 1 200 000 actuellement et que nous visons 2 millions en fin 2017, je pense que ces chiffres-là parlent un peu. Donc il y a eu des efforts et des facilités qui ont été créées sur toute la chaîne de valeur. On ne peut pas se limiter seulement au tourisme balnéaire. Il y a des sites qui sont en cours d'aménagement, notamment à Pointe-Sarène, les îles du Saloum qu'on peut visiter, la mangrove. Il y a aussi Modjen qui est vraiment un endroit paradisiaque qui sera aménagé dans les prochains mois. Ça, c'est pour plus diversifier nos possibilités, mais surtout monter notre capacité d'accueil.
Le ministre sénégalais du tourisme, Mam Baye Niang, était joint à Paris.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. C'est au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'était Lionel Gaïma à la console, Kelvin Fowler à la présentation, Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à tous.